This podcast is brought to you by HEC Paris.
Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'entendre pour la deuxième fois sur ce thème du Moyen-Âge des religions le professeur Bragg.
Tout d'abord, bonjour. Parce que c'est une pratique ici de dire bonjour avant de parler. J'ai appris ça avec l'émerveillement la dernière fois. Donc, bonjour. Je commence par plaider votre indulgence. Puisque, après m'être avéré la dernière fois un agent provocateur et un affreux jojo, je vais persister et signer sur un exercice plus difficile qui est de parler du Moyen-Âge et du Moyen-Âge des religions, étant donné que je ne suis pas vraiment sûr qu'aucune de ces choses-là n'existe. Le Moyen-Âge présente en tant qu'entité historique un problème tout à fait délicat, qui est d'abord un problème de fait, c'est que c'est sans doute la période de l'histoire sur laquelle circule le plus de légendes. C'est la période de l'histoire sur laquelle on peut se permettre de dire le plus de sottises, avec un maximum d'impunité. Donc, il n'est pas étonnant que pas mal de gens aient profité de la situation. Je me demande si on ne ferait pas mieux, afin d'éviter toute une série de bêtises, d'en finir tout simplement avec cette période, comme l'a proposé Régine Pernoud il y a déjà quelques années dans un livre qui porte justement pour titre « Pour en finir avec le Moyen-Âge ». Alors, je n'irai pas aussi loin qu'elle, je n'irai pas non plus aussi loin que l'auteur dont j'ai oublié le nom d'un livre que j'ai feuilleté il y a une quinzaine de jours en gare de Mannheim, où je revenais de Heidelberg, et où j'ai vu que le bonhomme démontrait qu'il y avait une erreur dans la chronologie communément reçue de l'histoire médiévale, et qu'on nous avait fourgué 3 siècles de trop, et qu'il ne s'était en fait rien passé, que Charlemagne n'avait jamais existé, par exemple, et que nous étions en fait en 1703. Bon, je n'irai pas aussi loin. Je me placerai simplement au niveau d'une réflexion sur les termes mêmes qui sont employés dans le titre de ma conférence. Le Moyen-Âge des religions, eh bien, je vais taper comme un sourd successivement sur le Moyen-Âge, sur les religions et sur la formulation même du titre. Cela sera le début de ma conférence. Et si j'ai encore un peu de temps, ce que j'espère, je taperai là aussi comme un sourd sur un concept qui est tout à fait à la mode lorsqu'il s'agit des religions, et spécialement de certains aspects du Moyen-Âge, à savoir le couple tolérance-intolérance, que je ne, donc, tolérerai pas. Alors, commençons par le Moyen-Âge. J'ai invité certains d'entre vous la semaine dernière, enfin ceux qui sont venus parler un petit peu avec moi à la fin de ma première prestation. Je les ai invités à réfléchir sur ce nom étrange, Moyen-Âge. C'est quand même assez curieux que l'on désigne une période de l'histoire uniquement par sa localisation entre deux autres périodes, comme une période intermédiaire. Eh bien, cette dénomination ne vient pas d'une quelconque description des faits, mais elle vient déjà d'une interprétation portant sur la nature de ce qui s'est passé, et en l'occurrence d'ailleurs de ce qui ne s'est pas passé, pendant la période en question. Parler de Moyen-Âge, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est suggérer la représentation d'une sorte de creux ou d'une sorte de baisse de tension, d'une sorte d'espace vide entre deux points de référence que l'on appellera successivement l'Antiquité et les temps modernes. On a l'impression, dès que l'on entend le mot, et même si l'on n'y réfléchit pas, surtout si l'on ne réfléchit pas, qu'il s'agit d'une sorte de marais, enfin de plaine un peu ennuyeuse, entre deux sommets. Eh bien, c'est justement ce genre de représentation qui était l'objet, le but de ceux qui ont inventé ce terme de Moyen-Âge. On le voit apparaître, de meilleurs historiens, des gens qui sont forcément de meilleurs historiens que moi, puisque moi je ne suis pas du tout un historien, donc ils sont forcément meilleurs que moi en histoire, ont établi que le terme apparaît pour la première fois au XVe siècle, sous la plume d'un humaniste italien, qui ne nous intéresse pas ici, et dans un sens parfaitement neutre. Il s'agissait de faire l'éloge d'un personnage de la même époque à peu près, et dire qu'il était très calé en littérature antique, qu'il était également très au courant de la pensée de son époque, et puis là, il faut ajouter quelque chose pour faire une belle période ternaire. On nous a appris ça en terminale, quand nous apprenions à trousser une disserte de philo, il faut trois parties, donc il faut un troisième terme. Et comme il ne trouvait pas de troisième terme à mettre entre l'Antiquité et l'époque présente, eh bien, il a inventé l'expression « période intermédiaire ». C'est ça que signifie initialement Moyen-Âge. Donc le sens initial du terme est parfaitement neutre, c'est ce qui est entre deux extrêmes. Mais bien vite, le mot s'est chargé d'une valorisation. La valorisation que je viens de dire, à savoir une période de latence entre deux sommets radieux. C'est déjà le cas chez Pétrarque, qui est l'inventeur de la légende, Pétrarque. Là, nous sommes au XIVe siècle, il n'emploie pas le mot de Moyen-Âge, mais c'est lui qui invente la formule, un mot qui est donc postérieur, comme je viens de le lire, mais qui invente la formule de l'âge des ténèbres, de la période sombre, pendant laquelle la culture est censée avoir végété jusqu'à ce qu'elle retrouve, jusqu'à ce qu'elle reprenne du poil de la bête. Avec qui? Cherchez un peu à deviner. Avec lui. Avec lui. C'est une manière de se faire de la pub et de faire de la réclame pour son propre style poétique que d'essayer de montrer que juste avant, il y avait des gens qui écrivaient mal, qui écrivaient un latin barbare, qui était encore pris, comme le dit quelque part Rabelais, au chapitre 8 du Pantagruel, la célèbre lettre, qui était encore pris dans une obscurité gothique. Le temps, écrit le géant à son fils, écrit Gargantua à Pantagruel, le temps était encore ténébreux, et sentant l'infélicité et calamité des Goths, qui avaient mis à destruction toute bonne littérature. Lorsque l'on veut refiler la responsabilité des ténèbres, d'obscurcissement, enfin de choses tristes, les boches rendent de bons services. Bon, on ne les appelait pas encore les boches, c'était les gos. Il fallait que l'obscurité vienne de quelque part. On voit donc apparaître au XIVe siècle, encore plus au XVe siècle, l'idée d'une période qui a précédé et qui était de langues et de mœurs supposées barbares, et gothiques en particulier. Note en bas de page, c'est à cette caractérisation raciste, ou bien appeler les choses par leur nom, de l'obscurité médiévale, hein, que l'on met sur le dos des Goths avec leur peau de bête et leur chapeau à cornes, et, enfin leur casque à cornes et toutes sortes de choses absolument insortables dans un salon parisien. C'est à l'obscurité des Goths que l'on doit la dénomination de l'architecture gothique. Hein, lorsque les gens du XVIIe siècle appelaient gothique l'architecture que nous appelons encore comme ça, ça voulait dire que ça remontait à des temps barbares, marqués donc par l'obscurcissement des forêts germaniques qui grouillent de Goths. Dénomination d'ailleurs parfaitement hilarante, puisque s'il y a un art qui soit typiquement français, c'est bien l'art gothique. Quand vous regardez la carte de l'influence de l'architecture gothique dans l'histoire européenne, eh bien vous vous apercevez que l'épicentre du séisme, c'est tout simplement Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, donc la région parisienne. S'il y a un art moins gothique que l'art gothique, tu meurs. C'est l'art français par excellence, cet art prétendument gothique. Bon, ça, avec ça, nous sommes encore au XVe, XVIIe siècle. De manière amusante, le schéma ternaire, grandeur, obscurité, perte dans les sables, et puis renaissance, va se trouver repris dans des tonalités diverses, d'abord par les Lumières, par le XVIIIe siècle, qui va mettre sur le dos du Moyen-Âge tout ce qu'il n'aime pas, à savoir les préjugés, le mot est devenu un terme technique au XVIIIe siècle. C'est le règne du royaume des ténèbres, pour parler comme Hobbes, qui lui est du XVIIe et comme tous ses successeurs. C'est le règne de l'infâme qu'il va falloir écraser à coups de talon. Même chose quand on passe au XIXe siècle, vous trouvez le même schéma. Dans le positivisme, pas tellement chez Auguste Comte, qui avait gardé une tendresse pour des gens comme Saint Bernard, par exemple, qui est l'un des saints du calendrier positiviste, mais chez ces épigones, qui cherchent à faire valoir la modernité, les temps modernes, en les faisant se découper sur un fond sombre qui est justement le Moyen-Âge. Donc, première remarque sur le terme de Moyen-Âge, il y a bien des légendes qui courent sur le Moyen-Âge. La première des légendes est véhiculée par le mot lui-même qui sert à le désigner. C'est la seule période de l'histoire qui soit dénommée par un terme expressément péjoratif. Il y a un autre fait historique qui a subi le sort, un sort analogue, c'est Byzance. Byzantin est un adjectif ipso facto péjoratif. On ne peut pas employer le terme byzantin sans que ce soit péjoratif. On parle d'une querelle byzantine pour appeler, ce que j'appellerais en termes polis, de la sodomie entomologique. Donc, première difficulté, Première difficulté, on ne peut pas parler du Moyen Âge sans porter dessus un jugement de valeur. Deuxième difficulté, une période à supposer que l'on accepte cette division, hein, tout va bien, puis tout va mal, puis tout va bien à nouveau, à supposer même que l'on accepte cette division, où va-t-on placer la limite? Où le Moyen Âge a-t-il commencé? Où a-t-il fini? Et là, on se trouve d'une part en face du problème général du découpage de périodes historiques, qui est toujours un problème pour quelque période qu'il se soit, et cette difficulté générale est redoublée d'une difficulté plus particulière, c'est que la périodisation que l'on choisit d'appliquer, le moment où l'on découpe le tissu sans couture du devenir historique, pour faire commencer le Moyen Âge et pour le faire finir, est lui aussi tributaire d'une valorisation. Et d'une valorisation de la civilisation à l'intérieur de laquelle cette division a du sens. Cette division n'a de sens que pour l'histoire européenne. On a fait remarquer en particulier que bien souvent, on place le Moyen Âge, enfin on fait commencer le Moyen Âge à la déposition du dernier empereur romain d'Occident, en 476, si je ne me trompe. On fait commencer donc en 476 et on fait finir le Moyen Âge traditionnellement en 1453, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain d'Orient. Donc la période commence avec la fin de l'Empire romain d'Occident, elle se termine avec la fin de l'Empire romain d'Orient. Nous sommes en pleine romanité. On m'a reproché, très gentiment, de ne pas avoir parlé suffisamment de la romanité la dernière fois, et bien d'une certaine manière, même si j'en parlerai aussi peu aujourd'hui, nous sommes en plein dans le sujet, puisque nous sommes devant une historiographie implicite, nous sommes devant des découpages historiques plus ou moins avoués, qui prennent comme critère non pas l'histoire en général, mais une histoire bien déterminée, à savoir l'histoire de l'Empire romain. Le Moyen Âge, c'est le temps de latence qui a séparé l'écroulement de deux versions, ou de deux versants, si vous préférez, de la romanité, du pouvoir romain. C'est assez curieux qu'une période déterminée et un espace déterminé de l'histoire servent à structurer ainsi l'histoire universelle, d'une manière d'autant plus vexante que justement cette histoire universelle entre très mal dans les schémas Antiquité, Moyen Âge, temps moderne. Cela ne vaut que pour l'Europe. Cela ne vaut que pour l'Occident latin. Cela ne vaut même pas pour Byzance, cela vaut encore moins pour l'islam, ne parlons pas de l'Inde et de la Chine. C'est ce qui explique, il y a quelques années, bon, époque où j'étais, pour ne rien vous cacher de mon passé, où j'étais chercheur au CNRS. Il y a eu une levée de boucliers contre une tentative de redécoupage des sections du CNRS qui avait été imposée par je ne sais quel gratte-papier du ministère qui voulait que tout simplement eh bien, il y ait civilisation de l'Antiquité, civilisation du Moyen-Âge et civilisation des temps modernes. Évidemment, les spécialistes du Moyen-Orient, de l'Inde, de la Chine, du monde précolombien, en fait, les spécialistes de tout sauf l'histoire de l'Europe occidentale ont râlé comme des poux en disant bon, mais où est-ce qu'on va nous mettre, nous? Enfin, est-ce nous ne sommes ni antiques, ni médiévaux, ni modernes? Nous sommes ailleurs. Et ils avaient, bien entendu, mille fois raison, puisque les autres civilisations que l'Europe ne se conçoivent pas du tout comme, comme un rythme ternaire, comme une sorte de valse, n'est-ce pas, où on a un temps fort, une période intermédiaire où il ne se passe rien, et puis une renaissance, mais de manière tout à fait différente. Ou s'il leur arrive, comme en toute civilisation, d'avoir des moments d'exaltation et des moments de faiblesse, hein, de fonctionner d'une manière un peu cyclique, les cycles en question ne coïncident absolument pas avec périodes pleines et creuses de l'histoire occidentale. En ce qui concerne l'islam, par exemple, auquel je m'intéresse évidemment particulièrement, les deux cycles ne sont pas du tout en phase, c'est même le contraire, hein, puisque la grande période brillante de la civilisation arabe sous les Abbassides, c'est la Bagdad du IXe siècle, c'est-à-dire une période qui, en Occident, bon, est plutôt une période creuse. Donc, parler de Moyen-Âge, c'est non seulement s'exposer à toutes les difficultés que j'ai déjà dites, mais c'est aussi être européocentriste du fait même que l'on commence à parler. Avant d'avoir ouvert la bouche, dès que l'on pense à quelque chose comme Moyen-Âge, eh bien, on se place dans une perspective européocentriste, perspective d'autant plus étrange, d'autant plus paradoxale, que s'il y a une période pendant laquelle l'Europe s'est considérée comme étant tout ailleurs qu'au centre du monde, c'est justement la période médiévale. Je crois que, bon, j'ai pris l'habitude il y a quelques années de travailler toujours avec, sous les yeux, une carte du monde. Bon, c'est un petit truc comme ça. Bon. Eh bien, il est intéressant de se demander comment les gens se voyaient au Moyen-Âge, comment les gens considéraient l'endroit où ils étaient situés sur la surface du globe. Vous allez me dire, j'entends votre objection et j'y réponds par avance, qu'on peut mettre le centre n'importe où, une sphère, bon, pas facile de voir où est le milieu. Ou alors c'est très profond, un endroit où il fait vraiment très chaud. Je me souviens d'une visite aux usines Toyota, donc à un machin truc dont j'ai oublié le nom, enfin c'était au Japon, et dans le hall d'entrée, il y a une immense carte du monde qui montre très clairement que le centre du monde, c'est le Japon. Vous remarquez en effet que le Japon est miraculeusement, enfin, c'est un cadeau des dieux, situé à un point merveilleux d'équilibre entre les terres émergées d'un côté, donc Asie, Europe et Amérique d'une part, et puis d'autre part, l'immensité de l'océan Pacifique. Il est parfaitement au milieu, entre les deux éléments, une parfaite synthèse de la terre et de la mer. Bon, on pourrait faire la même démonstration pour la Patagonie ou pour pour la Birmanie. On peut toujours trouver un centre. Bien. Regardons la carte du Moyen-Âge, la carte du monde connue au Moyen-Âge. L'exercice est assez facile à faire, il suffit d'une bonne gomme, vous prenez votre carte du monde, vous retirez toute l'Amérique. Vous retirez tout ça. Vous retirez l'Australie et, disons, vous serrez un petit peu l'Extrême-Orient. Vous réduisez la taille des choses, le Japon, Madagascar, là on ne sait pas très bien si c'est différent pour les géographes arabes, enfin bon, vous faites subir un petit... Vous mettez du flou, vous estompez l'Extrême-Orient. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez une sorte de flaque, hein, ou de feuille flottant sur l'eau, et le centre, ben, il est quelque part au Proche-Orient. Hein, le centre géographique, le centre physique des terres émergées, tels que les représentaient les géographes de l'époque, c'est quelque part entre l'Irak et la Perse. Ceci pour la géographie physique. Pour la géographie humaine, si vous vous demandez quel est le point de référence, vous vous tournez vers un chrétien et vous dire c'est Jérusalem. Vous vous tournez vers un musulman, il va vous dire, bon, c'est la Mecque. Aucune des deux villes n'est tellement en Europe, c'est que je sache. Si vous demandez quel est le centre culturel, enfin, quel est l'endroit où il y a de la haute culture, le chrétien vous dira, bon, le Byzance. Le musulman vous dira Bagdad. En aucun cas, quelque chose qui serait situé en Europe. Le Moyen-Âge est la période de l'anti-eurocentrisme, si l'on peut dire. C'est la période pendant laquelle l'Europe se sent elle-même au bout du monde, dans quelque chose que on pourrait appeler le Far West, hein, littéralement parlant. C'est l'Ouest le plus lointain. Eh bien, je vous fiche mon billet que l'on peut trouver, enfin, je crois en avoir trouvé des traces, des exemples d'une sorte de complexe d'infériorité des Européens de l'époque, louchant vers Byzance, louchant vers Jérusalem, et ne se considérant jamais eux-mêmes comme le nombril des choses. Bien. Donc, Moyen-Âge vient le terme de Moyen-Âge vient de se voir accrocher une casserole de plus. Les casseroles en question, eh bien, ont perduré jusqu'à nos jours. Hein, jusqu'à nos jours, je disais tout à l'heure que c'est sur le Moyen-Âge que l'on peut se permettre d'écrire le plus de bêtises de manière impunie. Je ne parle pas des historiens de métier, bon, qui se surveillent les uns les autres et sont toujours prêts à dégainer les uns contre les autres. Non, je parle les gens qui font l'opinion. Bien. Il est amusant que le Moyen-Âge ait donné lieu à des légendes positives, à des contre-légendes, à des méta-légendes, si l'on peut dire, à des légendes de protestation contre la légende noire qui avait été répandue par les gens de la Renaissance, hein, les gens qui disaient « nous sommes la Renaissance », par les gens des Lumières et par les gens des temps modernes. En effet, on a vu apparaître, en gros, à partir du romantisme allemand, l'idée suivant laquelle le Moyen-Âge représentait une sorte de période bénie, d'harmonie sociale, d'harmonie intellectuelle. Cela se trouve très nettement dans un essai de Novalis, l'écrivain du romantisme d'Iéna, un essai qui a été écrit en 1799, date intéressante, hein, au moment où la Révolution française commence à refluer et où l'on s'aperçoit que la modernité, le progrès, n'est pas entièrement positif, enfin n'a pas entièrement les mains propres, et où on se met donc à regarder vers le passé avec un regard nostalgique, où l'on se dit, bon, à cette période, avant, il y avait peut-être des situations sociales et intellectuelles moins déchirées que maintenant, d'où le rêve d'une période harmonique, organique, qui va, eh bien, être le visage que le Moyen-Âge prendra, en gros, dans la droite européenne au XIXe et au XXe siècle, alors que, à nouveau, en gros, dans la gauche européenne, le Moyen-Âge continuera à avoir des traits grimaçants. Et nous assistons donc, de nos jours, au spectacle comique de journalistes qui qualifient de médiéval des atrocités tout à fait contemporaines et qui se félicitent que, Dieu merci, nous ne soyons plus au Moyen-Âge, mais simplement à l'époque de la Shoah, du Goulag, du Laogai et de l'autogénocide cambodgien. Donc nous avons fait des progrès par rapport au Moyen-Âge. Deuxième point, donc le Moyen-Âge, je crois qu'il faut, utiliser ce mot avec des pincettes pour ne pas parler de ces instruments qui permettent de manipuler les substances atomiques, puisque le terme même est explosif. Moyen-Âge des religions, un deuxième aspect du titre. En fait, ce n'est pas une conférence, c'est une anticonférence, puisque je détruis successivement les éléments de mon titre. Religion. Alors voilà, là aussi, un terme extraordinairement ambigu. J'ai déjà eu l'occasion, la dernière fois, de dire très rapidement que tout ce que nous appelons religion n'est pas adéquatement désigné par le terme. L'exemple que j'ai pris, bon, c'est un exemple tout à fait bateau, celui du bouddhisme. Bouddhisme, en tout cas le bouddhisme ancien, le bouddhisme primitif, le bouddhisme de Gautama lui-même, est athée. Il est une revendication de la libération de l'humanité par rapport, de libération en tout cas d'un certain nombre d'individus, d'élites parvenus à l'éveil, revendication de libération par rapport au cycle des réincarnations successives. Et cette libération doit pouvoir se faire par les seules forces de l'ascèse, sans que l'on ait nécessairement recours à des dieux. Bon, par la suite, le bouddhisme a pu mettre dans certaines de ses tendances de l'eau dans le vin de son athéisme primitif, en disant que finalement, le culte de tel ou tel dieu pouvait aider justement à atteindre cette libération. Ceci n'est qu'un exemple, rien de plus. Il y a une deuxième difficulté, c'est que, à supposer que nous puissions appeler les religions, vous entendez les guillemets, hein, les religions qui marquent le monde médiéval, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, à supposer que nous puissions les appeler du même nom, que nous puissions les mettre dans le même panier religieux, eh bien, nous allons nous trouver en face d'un problème, c'est que ces religions-là ne placent pas l'essence du religieux, ne placent pas ce que le religieux a de spécifique dans la même dimension de l'expérience humaine. Ce qui fait que nous appelons religion des activités, des attitudes, des pratiques qui ne sont pas commensurables. Je prends un exemple tout à fait simple, qui est la comparaison du christianisme et de l'islam. Donc les deux religions qui, au Moyen-Âge, sont en même temps des civilisations. Le judaïsme médiéval n'est pas, je l'appellerais plutôt une culture qu'une religion. Enfin, je reprendrai, je dirais peut-être quelques mots là-dessus. Eh bien, actuellement, quand nous pensons au mot religion, nous lui associons immédiatement le mot foi. Nous disons, bon, quelqu'un qui, comme on dit, a de la religion, c'est quelqu'un qui est croyant. Quelqu'un qui, comme on dit, a la foi. Bon, et puis ceux qui n'ont pas de religion, on les appelle des incroyants, gens qui n'ont pas la foi. Et pour nous, l'association religion-foi, c'est un bloc indissoluble. Ça forme un tout. Eh bien, cela prouve que, comme disait Croce, enfin Benedetto Croce, l'historien et philosophe italien, dans un essai célèbre, nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens. Parce que cette association-là, le fait que religion et foi soient liées, c'est une association chrétienne. Cela ne va pas du tout de même, il n'en est pas du tout de même dans le judaïsme, par exemple, ni même dans l'islam, que l'on considère pourtant parfois comme la religion de la foi par excellence. Et il y a cette rengaine de Massignon, suivant laquelle les trois religions pourraient se répartir selon les trois vertus théologales, le christianisme, l'islam étant la religion de la foi, le judaïsme la religion de l'espérance, le christianisme la religion de la charité. Bon, je n'en crois en ce qui me concerne pas un mot, mais enfin, il y a cette association de l'islam avec une forme de foi. Eh bien, cela ne se passe pas du tout de la même façon, les accents ne sont pas placés de la même manière. Je ne dis pas que l'idée de foi n'aurait pas de sens dans le judaïsme, dans l'islam. Je ne dis pas que d'autres idées n'auraient pas une importance dans le christianisme, mais je dis qu'elles sont accentuées de manière tout à fait différente. Le christianisme accentue effectivement la foi. Le judaïsme et l'islam sont avant tout des lois. Et en tout cas, c'est comme cela qu'elles se décrivaient dans les œuvres des penseurs appartenant eux-mêmes au judaïsme et à l'islam dans le monde médiéval. Pour dire religion, il n'y avait pas de mot au Moyen-Âge. Enfin, il y a le mot « religio » en latin, bien entendu. Le français, c'est du latin mal prononcé, comme chacun sait. Mais « religio », ça ne voulait pas dire religion au Moyen-Âge. Ça voulait dire la vertu toute particulière par laquelle on rend à Dieu le culte qui lui est rendu. Mais les gens ne parlaient pas de religion en disant il y a plusieurs religions, il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a le paganisme, il y a l'islam, il y a je ne sais quoi. Ils parlaient de différentes lois. C'était le concept englobant. Des lois, c'est-à-dire des manières de vivre, des systèmes qui étaient censés réguler l'ensemble de ce que l'on avait à faire dans la vie quotidienne, jusqu'à ses aspects les plus humbles. Cela explique, par exemple, un étonnement que j'ai trouvé sous la plume d'un des plus grands penseurs du Moyen-Âge, à savoir Ibn Khaldoun. C'est un des textes, j'étudie ce texte dans un article qui a été reproduit dans la brochure qui vous a été distribuée. J'ai appelé ça « Trois regards musulmans sur la cité chrétienne ». C'est des psys qui m'avaient demandé de parler de ça. Donc c'est dans une revue de psychanalyse, mais ça n'a aucune espèce de rapport avec la psychanalyse. Bon, dans ce texte d'Ibn Khaldoun, donc un esprit absolument génial, s'étonne. Il s'est curieux dans les écrits chrétiens, dans ce qu'il appelle l'évangile, terme qui n'a pas de correspond pas avec ce que nous entendons par les quatre évangiles. Dans les évangiles, il y a très peu de ce qu'il appelle des statuts, il y a très peu de règlements. On vous dit très peu ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est bon d'éviter, ce qui est louable, ce qui est blâmable. Pourquoi s'en étonne-t-il ? C'est vrai, si vous lisez le Nouveau Testament, vous y lisez des histoires, on vous raconte des choses, en particulier sur Jésus, bien sûr, et puis vous y trouvez de temps en temps des exhortations morales. C'est comme ça que Ibn Khaldoun décrit le contenu du Nouveau Testament. Vous y trouvez très peu de textes législatifs, de disant faites ceci, ne faites pas cela, divisez votre héritage de telle ou telle façon, asseyez-vous pour enfiler votre pantalon, nouez votre turban debout, bon, exemple de hadith célèbre. Bon, vous ne trouvez rien de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est l'étonnement même d'Ibn Khaldoun. Pour lui, une religion, ça doit être avant tout un règlement. L'idée de foi y est, mais elle est secondaire. Ce qui explique, par exemple, enfin, ce qui a une conséquence importante, c'est que, et là je parle comme quelqu'un qui s'intéresse bien entendu aux philosophies du Moyen-Âge, le problème de la relation entre ce que nous appelons la foi et la raison ne se pose pas du tout de la même manière au Moyen-Âge et pour nous. Et par exemple, chez Averroès, qui est un auteur à la mode en ce moment, le problème ne se pose pas du tout de la même façon que dans une problématique qui oppose la foi et la raison. L'opposition ou le dialogue, je ne parle pas nécessairement d'un conflit, la recherche de rapport entre foi et raison, c'est une recherche absolument chrétienne que l'on ne peut pas appliquer comme un schéma qui vaudrait universellement au problème tel qu'il est posé dans l'islam. Dans l'islam, le problème que se pose Averroès, c'est l'activité philosophique est-elle autorisée par la loi ? Quel en est le statut législatif ? Et là, il parle en tant que juriste, car de métier, Averroès n'était pas philosophe. Philosophe, ce n'était pas une profession à cette époque-là. C'était une activité privée. Il n'y avait que des amateurs en philosophie dans ce monde-là. Il parle comme juriste. Et il se demande, est-ce que la loi, qui est supposée d'une validité absolue, qui est divine, est-ce que la loi permet, est-ce qu'elle recommande, ou est-ce qu'elle oblige, est-ce qu'elle impose, pardon, l'étude de la philosophie, ou est-ce qu'au contraire, elle la blâme, voire l'interdit ? Son problème, c'est le rapport entre une activité raisonnable et une loi. Dans le christianisme, le problème, c'est le rapport entre l'usage de la raison et la foi. Dans l'islam, le problème que nous appelons rapport entre la religion et la philosophie, c'est un problème politique. C'est un problème juridique et politique. Dans le christianisme, c'est un problème, disons, de psychologie et de, bon, ce que les, excusez le jargon, de d'épistémologie, enfin, ou de gnoséologie. Dans l'islam, c'est de savoir, la question est de savoir si la philosophie est compatible avec l'ordre de la cité tel qu'il est réglementé par la loi musulmane, par la loi coranique et la suite. Dans le christianisme, la question est de savoir l'enquête rationnelle peut-elle coexister dans la même âme, pour ainsi dire, avec la foi, avec l'acte de foi. Ou encore, est-ce qu'il y a un mode de connaissance religieuse particulier qui pourrait entrer en rapport avec le mode de connaissance rationnel. Nous avons en apparence le même problème. En fait, les contextes sont totalement différents et cela n'est plus le même problème. À l'intérieur même des religions, peut-être ne parlerai-je que de ces trois, peut-être ne ferai-je que détruire le titre de ma conférence, mais je crois que ça pourrait donner à penser. À l'intérieur même des religions, les mots dont on se sert sont ambigus. Je prendrai un exemple tout simple, mais vous allez me dire que ce n'est pas n'importe quel exemple. C'est un petit mot dont les religions se servent assez souvent, c'est le mot « Dieu ». Eh bien, ce que le christianisme appelle Dieu ne fonctionne pas de la même manière que ce que l'islam appelle Dieu. Le mot même a un statut différent. J'ai, la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, passé pas mal de temps à expliquer ce que voulait dire le mot judaïsme, le mot christianisme, le mot islam. Eh bien, on peut appliquer, je serai un peu plus rapide, rassurez-vous, on peut appliquer le même coupage de cheveux en quatre, mais un coupage de cheveux en quatre qui, me semble-t-il, est instructif, bon, moi ça m'a instruit, en tout cas, justement au nom de Dieu. Le nom de Dieu dans le christianisme, c'est un nom propre. Du point de vue linguistique, il est placé sur le même plan que Pierre, Paul ou Jean. C'est un nom. C'est un nom. Dans l'islam, le mot même qui désigne Dieu est un nom commun. Il faut le décomposer, comme le décomposent traditionnellement les commentateurs, et bon, ils ont tout à fait raison, il faut le décomposer en deux éléments, l'article, qui est en même temps une sorte de démonstratif, si vous voulez, et puis le nom commun qui veut dire une divinité. Allah, c'est la fusion de Al-Ilah, Donc, le Dieu. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Et le fait même de traduire l'un par l'autre, de dire Dieu c'est Allah, ou de dire bon, le Allah c'est le Dieu entre guillemets des musulmans, ou de dire que réciproquement que les chrétiens adorent Allah sous un autre nom et d'une autre façon, c'est déjà en porte-à-faux. Les mots n'ont pas le même statut dans la langue, le même statut grammatical. Il y a dans la grammaire beaucoup plus que du simplement linguistique. Cela implique une quantité de réalité. Bon. Le troisième point de cette destruction de mon titre, eh bien, c'est la forme même. Le Moyen-Âge des religions. Le Moyen-Âge des religions. À supposer que le Moyen-Âge, ça existe, à supposer que les religions, cela recouvre quelque chose d'un peu unifié, que l'on ne s'enlise pas dans des ambiguïtés, même si l'on suppose ça, la forme même du titre suppose que l'on peut plus ou moins identifier les deux et dire que le Moyen-Âge aurait été un âge de la religion. Cela implique donc que la période médiévale, ayant été un âge religieux, la période post-médiévale devrait être, en conséquence, l'âge de la sortie du religieux. Ce que l'on appelle la sortie du Moyen-Âge, ou la modernité, ou comme on voudra l'appeler, reçoit de la sorte une quantité de noms qui sont censés définir cette sortie par rapport à l'emprise du religieux, à savoir, par exemple, le nom de sécularisation, ou le nom de laïcisation. Mais laïcisation, comme vous le savez, le mot laïque est absolument incompréhensible dès qu'on sort des frontières de la France. Donc sécularisation est peut-être un petit peu plus compréhensible puisque, bon, on peut employer ce mot-là dans d'autres langues qu'en français. Dès que l'on dit le Moyen-Âge des religions, on associe, on retombe dans le schéma dont j'ai parlé, à savoir l'idée suivant laquelle à une époque religieuse, qui aurait été le Moyen-Âge, succède une époque non religieuse, dans laquelle nous serions peut-être encore. Bon, écoutez, peut-être ai-je déjà assez parlé, j'ai à peine traité la moitié de mon sujet. Je suis bien bavard, vous m'en pardonnerez. On s'arrête là, bon.
Please visit us at www.hec.edu.